dans votre région.
Toutes les infos sur francebleu.fr.
France Bleu, un réseau du groupe Radio France.
France Inter.
La voix est libre.
France Inter, 15h04, l'heure de là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet.
Daniel Mermet, tu as entendu aujourd'hui les enfants qu'on recrute à Tombouctou et la pauvre femme battue qui est en chanel sans son voile? Allez, renseigne-toi mieux, espèce de journaliste à la noix, tu t'écoutes parler, hein? Pauvre type. Au revoir.
Salut Mermet, bon ben j'ai écouté ton émission de vendredi. Bon ben c'est bien, tu as trouvé l'expert qui cautionne tes thèses. Comme tout, tous les laboratoires, ils ont toujours un médecin, un docteur, un expert qui cautionne leur thèse. Eh bien, toi, ça y est, tu as trouvé l'expert qui cautionne tes thèses, tu dois être content. Seulement, ce que je voulais lui dire à ton expert, je sais pas d'où tu le sors d'ailleurs, c'est qu'il faudrait qu'il vienne traîner un peu dans mon quartier. Parce que mon quartier, en 10 ans, il a bien changé, et j'avoue qu'on le reconnaît plus. Alors s'il venait là, ben, peut-être qu'il dirait, ah ben oui, il y en a peut-être un peu plus que ce que je pense. Lui, il doit habiter dans le 16e, je ne sais pas où, dans les beaux quartiers résidentiels, bien sûr. Là, il n'y en a pas, il n'y a pas de souci. Mais nous, on est dans la merde, quoi, Mermet. Sérieux. Hein. Allez, Mermet, continue. Ah, des fois, on te trouve bien, mais des fois, tu nous fais rire quand même. Allez, salut, à bientôt.
Au sujet de l'émission sur l'obsession collective de l'islamisation, c'est vrai que quel que soit le talent de Daniel Mermet ou de Raphaël Liogier, une seule émission ne changera rien. Car en face, la propagande anti-islamiste est un rouleau compresseur énorme. Faites-en l'expérience en zappant d'une chaîne de télévision à l'autre et chaque soir, je dis bien chaque soir, vous verrez une émission soit sur les djihadistes, soit sur les intégristes musulmans, soit sur les policiers de la BAC qui arrêtent des jeunes dans les banlieues, et même si les images sont floutées, on comprend que ce sont des jeunes d'origine musulmane. En passant par des réflexions abjectes de certains politiciens ou des monsieur tout le monde qui viennent de se faire cambrioler et régurgitent leur haine primaire sur les bougnoules, je cite. Mais aussi des reportages sur les mosquées interdites, sur la nourriture halal, sur les piscines soi-disant réservées, sur les tchadors honteux, sur les femmes lapidées, etc., etc., etc. Les médias bourrent le mou aux Français, alors comment voulez-vous que monsieur tout le monde, de l'ouvrier jusqu'au cadre dirigeant, ne pense pas comme eux?
Salut Mermet, décidément ça ne s'arrange pas à France Inter, ou plutôt à Gauche Inter que j'écoute depuis quelques décennies, la publicité y est moins présente qu'ailleurs, grâce à l'argent des contribuables, ce qui n'empêche pas cette radio d'être devenue le porte-parole zélé de la pensée unique de gauche et d'extrême gauche, dans la proportion d'un cheval socialo-communiste pour une alouette de centre-droit. L'objet premier de mon appel est motivé par ton émission du 15 février dernier, au cours de laquelle un brillant fonctionnaire d'éducation nationale, un certain Raphaël Liogier, a essayé de nous vendre un produit frelaté sous l'étiquette du mythe de l'islamisation. Pour étayer sa thèse, l'imposteur de service a pris l'exemple de la burqa, qui est pour l'instant un problème limité en nombre, mais pas par rapport à ce que représente cet accoutrement sexiste chez nous. Mais, comme par hasard, pas un mot sur l'épidémie de voile islamique qui prolifère depuis quelques années dans des proportions préoccupantes, à telle enseigne que la seule religion visible dans les rues et les lieux publics de France est l'islam. Ensuite, dans un laborieux exposé très abscond, cet éminent fleuron de la pédagogie française envié par le monde entier, voire le nombre d'illettrés pour ne pas dire d'analphabètes qui sortent du système scolaire aujourd'hui, s'est livré à une contorsion sémantique digne des meilleurs discours marxistes-léninistes pour arriver à la conclusion que l'expansion de l'islam n'est pas le fait des musulmans, mais des mécréants de Français qui s'inquiètent de voir cette religion intolérante et totalitaire étendre son influence. Je suggère à cet éminent pourfendeur de préjugés de relever quelques défis à la hauteur de sa cécité. Le mythe du génocide arménien, le mythe des crimes nazis, le mythe des crimes communistes dans l'URSS stalinienne, le mythe des crimes communistes dans la Chine maoïste, le mythe du génocide cambodgien dans le Kampuchea de Pol Pot, et enfin, le meilleur, le mythe de la charia dans les pays musulmans. Allez Liogier, le boulot, c'est maintenant.
Alors bien sûr, Daniel et toute l'équipe, que c'est utile, un livre et une émission qui décortique le mythe de l'islamisation. Alors merci pour la trousse à outils. Tant d'arguments sérieux pour équiper nos escarcelles, parce qu'il me semble fort possible et même redoutable que la lutte contre l'islamophobie soit l'autre inévitable combat à mener contre l'injustice avec celui du partage des ressources. Et ça fait du bon d'entendre un peu des gens intelligents qui ne tombent pas dans le piège.
Samedi midi à Canal+, le thème c'était les fouteux et la prostitution. Et à ce sujet-là, ils ont montré un vieil enregistrement de Bernard Tapie quand il était patron de l'OM. et qui disait en gros ceci, à la veille d'un match important pour son équipe, il disait, bon les gars, vous n'allez pas aller faire les cons à Paris, vous allez rester à l'hôtel, je vais vous amener le matos sur place. Je pense que tout le monde a compris le matos, ce que c'était. Et après, quand on rapproche ça du fait que Christine Lagarde a filé 45 millions d'euros à ce mec pour préjudice moral, un mec qui n'en a pas de morale, eh ben j'espère bien que ça va lui péter au cul un jour à Christine Lagarde.
Ouais, salut à tous. En redescendant de Notre-Dame-des-Landes, j'ai pensé aux gens que je croise dans le milieu militant et qui sans arrêt rabâchent, il n'y a pas de jeunes qui s'engagent, il n'y a pas de jeunes dans les assos, ils n'ont pas de conscience politique, ils sont coincés dans le confort d'une société de plus en plus individualiste. Ben moi je voudrais apporter mon témoignage. Après 15 jours de marche passée notamment avec beaucoup de jeunes, dont certains venaient de Nice à pied, 1200 km, après quelques jours passés sur la ZAD avec les pieds dans la boue, mais vraiment beaucoup de soleil dans la tête, je peux vous dire que l'engagement, la conscience politique, elle est présente sur la ZAD, avec une devise par rapport aux attaques incessantes des gardes mobiles, c'est « on lâche rien ». Quoi. Toute la nuit de lundi, on a fait le tour des barricades pour chanter des chansons, apporter un petit peu de réconfort aux gens qui passent la nuit pour tenir le lieu sur quatre bouts de planche, enfin, dans des conditions assez difficiles. On a fait ça jusqu'à 2h du matin. Alors les militants grincheux et les attentistes du grand soir, allez sur la ZAD, allez rencontrer les ZADistes, allez leur apporter votre soutien, allez vous enrichir de leur expérience. Et n'oubliez jamais que ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé. Vinci dégage, résistance et sabotage. Ciao vive, portez-vous bien.
Ah oh, Eric, quelle envolée! Merci pour tous ces messages et celui-là qui tombe bien parce que c'est à Nantes que nous allons passer cette heure. Il s'est passé beaucoup de choses curieuses à Nantes, étonnantes, consternantes, sidérantes. Un homme en haut d'une grue jaune, vous avez vu ces images, puis un homme dans une grue grise, vous avez vu ces images, et puis auparavant, quelques heures auparavant, un homme qui s'immole par le feu, des faits étonnants, surprenants, sidérants, et puis effectivement, cette ville de Nantes où en permanence, on a des manifs et toute une résistance, on peut appeler ça comme ça, contre la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et puis ce samedi, une autre manif dans cette ville, une manif contre le mariage gay. Voilà quatre événements, voilà quatre messages. Vous avez reçu un message, parce que dans les quatre cas, c'est des messages qui sont envoyés, qui nous sont envoyés, les militants contre celui qu'on vient d'entendre, le message d'Éric sur Notre-Dame-des-Landes, c'est un message. Alors là, c'est vraiment... En plus, c'est un message laissé dans la boîte vocale de la base où j'y suis. Ceux qui luttent contre le mariage homosexuel, ceux qui résistent à la marche, comme ça, de l'histoire... C'est cet homme, ce deuxième, à nouveau celui qui est toujours, d'ailleurs alors qu'il est toujours en haut de cette grue étonnante. J'avoue que la première fois que je voyais cette extraordinaire grue, qui maintenant est une sorte de grue musée, à bord de laquelle cet homme est grimpé pour faire valoir ce qu'il considère comme ses droits par rapport à la garde de son enfant. Et puis, celui qui s'est immolé. Quel sens ça, tout ça? Est-ce qu'on peut raccorder tout ça? Quelle signification? Alors, toujours dans ces cas-là, les pouvoirs publics arrivent, rassurent, et les médias arrivent, et hachent tout ça tout menu, et que je te formate, et que je t'emboîte, et que c'est terminé. Ce qu'on a voulu, avec Anaël Verzo, c'est faire autrement. C'est aller sur Terre, hors de ces façons de voir et de formater toujours les événements. Ceux-là sont quatre, on aurait pu en prendre encore davantage, mais enfin, c'est quand même assez étonnant, cette façon dont ça se chevauche, ça se télescope, ça s'annule, et quelle signification ça peut bien avoir. Il y en a mille significations. On peut voir dans ces faits beaucoup plus de choses que les médias généralement d'envoi. C'est contre ce formatage que nous sommes allés là-bas et que nous sommes revenus avec ces messages qui, vous, nous, sont destinés. Vous avez reçu un message, deux messages, trois messages, quatre messages. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Vous aimez le bœuf, mangez du cheval. Vous aimez le poisson, mangez du porc. Vous aimez le mouton, écoutez et lisez les médias. Bon appétit.
La mitre du pape. Afin de faire le pitre, le pape prit le métro avec sa grande mitre d'un bon mètre de haut. La pluie est une perverse, ennemie du chapeau. À la dernière averse, la mitre avait pris l'eau. Quand le brave homme d'église arriva sur le quai, comme la tour de Pise, son couvre-chef penchait. Augmente chaque jour fraudes et cambrioles, un employé à court. Votre mitre est trop molle. Soit vous la redressez dans les plus brefs délais, soit je vous fous un PV pour Galurin en biais. Le pape, abasourdi par une telle injonction, se met à genoux et prie sous les yeux du planton. Ô Seigneur Tout-Puissant, je suis face à un crétin qui me réclame de l'argent, car ma mitre penche un brin. Mon fils, t'as une crosse, serpent comme d'un tuteur, lui répondit le boss, et merde au contrôleur. C'était un pauvre pêcheur, éventuellement poète. Salut.
Devant Pôle emploi. Terrible. Terrible information, terrible événement. Malheureusement, cet homme est mort. Voilà, c'était une personne qui arrivait en fin de droit, qui n'avait plus droit aux indemnisations. Un drame de plus, je crois, un drame de plus. J'espère qu'on arrivera à un moment donné à s'unir tous contre ce putain de capitalisme qui nous détruit, quoi. Ce qui me fait le plus chier encore, hein, c'est que c'est un gouvernement de gauche qui aujourd'hui a tout pouvoir, quoi. Et y a rien qui change.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis avec Anaël Verzo. Vous avez reçu un message, deux messages, trois messages.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, on vient d'arriver à Nantes et on est station chantier naval, la station de tramway chantier naval. C'est le port.
C'est ça. C'est ce qui est le port. Bonjour.
Ça va ?
Ouais, ça va, nickel. Il fait beau, pour une fois. Mais ouais, c'est ce qui était le port dans les années, jusqu'à dans les années 70. Et ce qui est plus grand-chose, à part un endroit de fête et de culture.
Alors, là, il y a une grande grue jaune juste devant nous, où depuis vendredi matin, un homme voilà, s'est perché sur cette grande grue parce qu'il demande à voir son fils. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit, il y a un autre homme qui est un ami à lui et qui est venu s'installer sur une deuxième grue plus loin, une grue grise, en solidarité avec son ami, qui réclame donc la possibilité de voir son fils qu'il n'a pas vu depuis 2 ans suite à une décision de justice. Et lui-même, donc cet ami, perché sur sa grue là un peu plus loin, sur la deuxième grue grise, n'a pas vu non plus ses deux enfants depuis un certain temps. Pareil, suite à une décision de justice. Et toi, Jean-Baptiste, t'habites juste en face, c'est
ouais,
ça ?
J'habite juste là, juste sur la petite place qui est derrière nous.
Du coup, tu les vois depuis ta fenêtre ?
Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Si je me penche bien, ouais.
Et alors, qu'est-ce que tu vois depuis hier ?
Bah, pas grand-chose, en fait. Je vois beaucoup de policiers, mais bon, à Nantes, ça fait 4 mois qu'on voit beaucoup de policiers, de toute façon. Avec Notre-Dame-des-Landes, on est quasiment en état de siège militaire.
Ah bon ?
Ah oui, c'est impressionnant. Il y a des CRS partout, devant tous les édifices institutionnels, genre devant la mairie, la préf, devant le local du PS, tout le temps, de nuit et jour, il y a des policiers partout. Parce que bah ils ont peur d'action.
Ils ont peur que Notre-Dame-des-Landes prenne de l'ampleur et qu'il y ait des conséquences ici à Nantes, parce que bon, c'est pas loin, on n'est pas loin là.
Bah c'est ça en fait, c'est qu'on est un peu la base arrière du militantisme de Notre-Dame-des-Landes. Les gens souvent, je sais que les gens qui vont à Notre-Dame-des-Landes tous les jours, ils habitent quasiment tous ici, ils se réunissent ici. Il y a des manifs un jour sur deux ici. Beaucoup de gens se font contrôler dès qu'ils ont un peu le faciès d'extrême-gauche, comme ils disent, d'anarcho-autonome. Enfin, moi, je me suis fait contrôler plusieurs fois, pourtant...
Et toi, t'as un faciès d'anarcho-autonome?
Pourtant, ça va, normalement pas un faciès d'anarcho-autonome, mais...
T'as quel âge? 18 ans
18 ans. Ouais, 18 ans.
Et là, on est avec toi aujourd'hui. Alors bon, on va aller voir là, ces hommes sur leur grue, mais on est là surtout pour la mort de Jamal.
Ouais, voilà. Bah oui, c'est aujourd'hui qu'il y a le rassemblement pour... Enfin, en réaction à la mort de Jamal Cher.
Et toi, t'es l'un des organisateurs du rassemblement.
Il n'y a pas d'organisateur, mais il faut toujours des gens qui arrivent à coordonner un peu les décisions qu'on a prises jeudi, par exemple, de se rassembler aujourd'hui, voilà.
Jean-Baptiste, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a ce rassemblement aujourd'hui?
Bah en fait, mercredi, dans les coups de midi 13h, Jamal, un jeune français qui s'est... Enfin, il doit avoir 40 ans, mais c'est quand même jeune, qui s'est immolé devant le Pôle emploi de Nantes-Est, qui est un Pôle emploi assez excentré. Il est arrivé avec un bidon d'essence de 5 litres, alors qu'il avait déjà averti a priori les médias et la police. Et il a quand même réussi à concrétiser son geste. Et donc voilà, ça a fait... je pense que ça a pas mis le feu que à sa vie, que à sa famille. Ça a aussi un peu mis le feu ici, à Nantes, quoi. Enfin, c'est le sentiment que j'ai, quoi.
Un chômeur s'immole par le feu devant Pôle emploi. Un père s'isole en haut d'une grue géante pour obtenir la garde de son enfant. Plus loin, une manifestation contre le mariage des homosexuels. Et toujours, partout, vous l'avez entendu, la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et tout ça en même temps. Et tout ça au même endroit. Nantes, samedi après-midi. Des événements qui se chevauchent et se télescopent. Les pouvoirs publics sécurisent et neutralisent. Les médias épatent et formatent. Les penseurs rapides pensent rapidement. Et la société avale l'événement. Un petit coup de torchon et au suivant. Rien de nouveau dans ce que je vous dis, rien d'étonnant. C'est ainsi que fonctionne la fabrique de l'insignifiant. Pourtant, ce sont des messages qui nous sont adressés. 1, 2, 3, 4 messages. Des messages urgents, des messages sidérants, mais qui nous parviennent toujours à travers les mêmes filtres, les mêmes formats rassurants, les mêmes gardiens, le pouvoir qui arrive avec son extincteur, non pas pour sauver le chômeur, mais pour sauver le pouvoir. Nos services ont fait leur travail, Pôle emploi n'est pas en cause, cet homme avait des problèmes psychologiques probablement. Et les médias arrivent aussi avec leur couverture non pas pour sauver le chômeur, mais pour s'emparer du message, pour s'emparer de l'événement, l'éplucher, le couper, le faire cuire, en enlevant toutes les griffes, toutes les aspérités, et le rendre comestible, consommable, tout cuit, un rond dans l'eau et au suivant. On a voulu voir les choses un peu autrement, exceptionnellement, sur les quais et dans les rues de Nantes, un samedi autrement dit, autrement vu, autrement entendu.
Dans la salle d'attente de la gare de Nantes, j'attends. Le légionnaire s'endort sur sa bière en chialant. qu'est-ce que je donnerais pas pour être au chaud? Malo qui serrait son matelot sur le quai. Fin de tienne, j'ouvre un magazine et je vois une jolie petite rousse qui se tape une mousse au chocolat. M'invite à en prendre avec elle. Rien qu'une cuillère avant que sa grand-mère ne revienne. Dans la salle d'attente de la gare de Nantes, j'attends juste le retour du printemps.
Alors la voie, c'est une grande grue jaune magnifique, hein.
On peut déjà lire la banderole sur la grue, on est juste en bas, donc
voilà.
On y arrive. On voit même le monsieur.
Ah, où ça?
Au bout de la grue. Au bout de la grue, il y a le monsieur, quoi, qui a l'air, qui est tout seul.
Ah oui, dis donc.
Qui bouge pas, qui attend.
Et alors là, il y a une banderole, donc sur le pilier de la grue, hein, le pilier principal. Qu'est-ce qui est écrit, tu arrives à lire?
Benoît, 2 ans, sans papa.
Ah, là, c'est étonnant, parce que c'est absolument désert. On doit être les deux seuls sur ce long chemin, là, qui nous mène vers cette grue. Et à droite, il y a le manège, dont on entend les sons. Et il y a une banderole rouge et blanche qui encercle la grue avec quelques policiers. Mais c'est tout. Et un bateau qui arrive là-bas au loin.
Ouais, c'est on appelle ça le navibus. Ça permet aux gens qui habitent dans le sud de traverser la Loire pour venir dans le nord.
Personne.
Personne. On le voit bien là en plus. Il a un chapeau.
C'est vrai qu'il a un chapeau.
Peut-être pour le soleil. C'est impressionnant. C'est bizarre. C'est un peu étrange, en fait.
Et derrière, là, il y a un énorme bateau. C'est un peu comme un paquebot militaire, hein, qu'on voit là devant nous.
Énorme.
Gris, tout gris, hein. Il n'y a pas d'autre couleur.
Et c'est musée maintenant, quoi. Comme un peu tout ce qui a trait au fluvial, là, non?
Ville-musée. Ouais. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes monté?
Non, et vous?
Non, pas encore, non.
Un autre côté, c'est qu'il y a une méfiance des pères, je pense. Ce serait une mère, ce serait pas du tout pareil.
On va demander aux deux dames, là, justement. Bonjour, mesdames. On s'intéresse à l'homme qui est là-haut sur cette grue. Vous en avez entendu parler?
Vaguement.
Oui,
très
parce
vaguement.
Que moi, j'ai eu le papa de l'autre grue. Oui. Et en fait, la maman est partie à 800 km. Il voit pas ses enfants. Donc, c'est médiatique, c'est pas suicidaire du tout.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette situation des pères qui ne voient pas leurs enfants? En tant que femme, vous êtes deux femmes,
ouais, bon,
d'une cinquantaine d'années.
Un peu dur, quoi. Le père, il a autant de droits que la maman, enfin pour moi. Je suis divorcée, donc je sais ce que c'est. Je n'aurais pas agi comme ça. Hein. Moi, j'ai mon fils qui est en divorce, là. Bon, ben, ça va, lui, il voit ses enfants, mais je trouve que c'est... je trouve ça abominable de supprimer les enfants à un papa ou à une maman, parce que bon, il y a des deux côtés, donc bon, après, voilà.
C'est les histoires derrière qu'on sait pas, quoi, c'est toujours pareil.
Vous baladez le chien?
Oui, parce qu'il fait beau,
donc on en profite.
On profite.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne balade.
Merci, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Salut. On a vu passer combien de personnes là depuis 20 minutes? 10 personnes, 15?
Ouais, 10-15, c'est ça.
Des coureurs,
beaucoup de coureurs. Parce que c'est une grande ligne droite.
Ah, il marche là, regarde. Il est en train de marcher là, ouais. L'homme là-haut. Là.
Il se déplace. Ouais, il fait les 100 pas quoi, a priori.
Oui, il est en train de faire des allers-retours, hein, le long de... C'est impressionnant parce qu'en fait, comme on est en contrebas, on a l'impression qu'il marche presque sur une poutre. Hein.
Ouais, c'est ça.
C'est un geste de la main. Comme
que ça, là, il y a des personnes qui ont l'air de le connaître, hein, qui font des signes, là.
Avec lui, en tout cas, il communique avec lui, hein, par signe. Je pensais qu'il avait un téléphone ou quelque chose comme ça, mais... Il communique par signe avec lui. Ou alors, ils sont juste là en soutien.
Bonjour madame, vous faites des signes alors
à Serge.
À Serge, vous le connaissez?
Un petit peu, mais bon, faudra voir avec la maman de Nicolas pour en parler.
Ah, c'est la maman de Nicolas qui est l'autre personne,
ouais, c'est ça. Hein,
qui est sur la grue grise, qui est là et qui est au téléphone avec donc Serge. On a appris son prénom là, qui est là-haut.
Oui, il m'a dit répond à la dame.
Bonjour. Alors là, vous étiez au téléphone avec Serge.
Oui, c'est ça.
Qui est là-haut.
Oui.
Et vous avez dit, répondez à la dame.
Parce qu'il a vu que vous étiez là depuis un moment.
D'accord.
Voilà.
Mais oui, on se demandait, parce qu'on s'attendait à avoir un flot de journalistes.
Non, ce matin, les journalistes, ils étaient sous la grue grise, où se trouve mon fils, qui est en
votre
fait...
fils.
Voilà. Qui est en fait, c'est des frères d'armes tous les deux. Ils se battent pour la cause des papas. Et par solidarité, quand il a vu que Serge avait engagé son action ici... On a sauté dans la voiture, il m'a dit qu'il faut jouer avec lui parce que je ne peux pas le laisser. Quoi. Il a été pendant, mon fils avait une grève de la faim pendant 4 semaines. Donc Serge, qui a baroude un peu parce qu'il est sans domicile, l'a rejoint avec son camion et a été à ses côtés dès le début, pendant toute sa grève de la faim. Donc,
quelle est l'histoire de votre fils? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui?
Donc mon fils, sa conjointe, son ex-compagne, s'il n'était pas marié, a décidé de le quitter en juin. Et dès lors où elle l'a quitté, elle a dit « Tu ne verras les enfants que 2 jours par mois, sans décision de justice. » Donc elle avait décidé, parce qu'ils étaient en bas âge, qu'elle ne lui accorderait que 2 dimanches par mois, alors qu'aucune décision n'était prise. Donc mon fils a tout fait pour voir ses enfants. Et puis, il est arrivé mi-juillet à mi-août à essayer de mettre en place une garde alternée. Il a trouvé un appartement, il s'est arrangé pour avoir un lieu pour accueillir ses petits. Il a été très réactif d'ailleurs. Et donc mi-août, quand il est allé pour sa semaine récupérer les petits, elle lui a dit « Je ne te les donne pas ». Et elle est partie, en disant qu'elle partait en vacances. Et elle était partie définitivement, en fait. Donc, il a retrouvé ses enfants le 21 septembre, 40 jours après. Il est allé les chercher, il les a ramenés. Donc, quand la décision de justice est tombée, c'était... en gros, on cautionne l'éloignement géographique volontaire. Elle est partie à 750 km. Voilà, et depuis, les enfants sont chez la maman. Et mon fils les a vus une semaine à Noël. Donc aujourd'hui, c'est pas pour son dossier individuel, parce que lui, il va respecter les décisions de justice, elles sont là. C'est pour que les papas soient entendus par rapport à ces décisions. Il y a 85% des enfants qui sont confiés aux mamans. Ça, c'est des papas qui ont envie de s'occuper de leurs enfants.
Et là, pendant qu'on parle, il est en train de nous regarder. Hein.
Ouais. Ben oui.
Il doit se demander ce qu'on est en train de se dire.
Ben, il sait ce que je dis.
Est-ce que vous avez suivi l'histoire de Jamal qui s'est immolé par le feu mercredi dernier?
J'en ai entendu parler, oui. J'en ai entendu parler. Il se trouve que c'est une coïncidence triste. Ça se passe dans la même ville et il se trouve que c'est Nantes parce que Serge, son enfant, est scolarisé ici, son ex-compagne vit ici. C'est plein d'histoires comme ça tristes où on est dans une société où l'individu disparaît, n'existe plus, n'est pas entendu. Je trouve que c'est grave. C'est grave. Et il faut que les autorités entendent ce qui se passe. Voilà.
Comment vous vous appelez?
Brigitte Volma. Voilà, je suis la maman de Nicolas Moreno.
Voilà.
Bienvenue, ma petite. J'ai le nez à la vitre. Va, et t'en fais pas. Moi, c'est ton papa. Je te déroule le fil. T'es arrivé pile. Va t'éter 3 gouttes. Je t'ouvre la route. Et dors, mon bébé. Tu viens d'arriver. Chez nous, c'est la fête. Fais pousser ta tête. J'ai ressorti mes billes. Que t'es belle, ma fille. Je suis bête et content. J'aime ta maman. Je compte 1, 2, 3. Mon petit bout de moi. Ça y est, c'est parti. Voilà. C'est ta vie. Je te la veux douce. Je souffrais sur la mousse. Tes yeux qui sont deux, ils verront ce qu'il y a de mieux. Je crains rien, mon enfant. Je t'offre du temps. Va ranger ta chambre. Ça sera pour septembre. Je te ferai rire, danser sur le pire. Si tu bois des larmes, t'en feras des armes.
Là, on se dirige vers la place royale, la place où il y a le rassemblement à la mémoire de Jamal, qui s'est immolé par le feu mercredi dernier.
C'est la place où on a fêté, où les gens ont fêté la victoire de François Hollande le 6 mai, et c'est la place où on va aller revendiquer ce qu'on a revendiqué maintenant, quoi. C'est un peu, c'est triste, parce que je pensais qu'on aurait pu le faire.
Alors là, on arrive sur la place. Alors, c'est une grande place circulaire avec une grande fontaine au milieu et un clocher derrière. Et il y a quelques personnes là.
Oui, trentaine de personnes avec des fleurs, certains. Des gens un peu de tous les horizons, ça se voit.
Ah, il y a ta mère là-bas qui fait signe.
Bonjour, Anaëlle, je suis ravie.
Il y a une dame là qui a des fleurs jaunes. Des gens
moi,
qui,
j'ai ramené des fleurs blanches et j'ai marqué un petit mot là.
Là, il y a des femmes et des hommes qui passent avec
c'est
des
pour
fleurs.
Jamal, victime de notre silence. On est là, Jamal, on est avec toi et je ne veux plus jamais que ça arrive, ça. Je ne veux plus jamais que ça arrive à cause de ce système de merde. J'ai 50 balais, je vais me réveiller. Voilà, c'est fini de courber le dos. Sonia, elle arrête. C'est terminé. Voilà. Et ici, c'est symbolique parce qu'on est quand même dans la ville de notre Premier ministre.
Là, les gens se prennent dans les bras, sont groupés autour de cette fontaine. Et la sœur de Jamal presse aussi des personnes contre elle. Elle a une longue tenue noire avec une fleur blanche à la main et un foulard marron autour de son visage. Tout le monde pleure ici.
Et c'est terrible, tous ces gens qui pleurent. Il était très aimé, hein. Je sais pas où est son épouse.
Immolé par le feu, comment ne pas penser aux bonzes du Vietnam en 1963 et une immolation par le feu symbolique, elle est marquée les imaginaires et la mémoire bien au-delà du Vietnam, bien au-delà du conflit entre les bons et les catholiques et qui allait faire prendre conscience de ce que les États-Unis faisaient au Vietnam. On se souvient en 69 de Jan Palach aussi, à Prague, ce jeune homme qui s'immole lui aussi par le feu pour protester contre l'occupation soviétique de son pays, la Tchécoslovaquie, comme on disait alors. Et puis, récemment encore, nous parlions de Bouazizi, Sidi Bouzid, ce jeune homme qui s'est immolé par le feu, ce jeune Tunisien qui a entraîné toutes les conséquences que nous savons, bien au-delà de ce qu'on appelle ordinairement la révolution arabe. Mais mercredi, à Nantes, le geste de cet homme, Jamal Chahab, de s'immoler par le feu devant son bureau de Pôle emploi, visiblement n'aura pas, pour l'instant en tout cas, les mêmes conséquences. Ça n'entraînera pas une réflexion réelle contre le chômage, contre les mécanismes, les systèmes qui conduisent, qui ont fabriqué ce chômage et qui l'ont maintenu et qui le maintiennent aujourd'hui et qui font passer le chômage pour une intempérie qui se prolonge, une crise, comme l'on dit, qui trouverait son terme comme une maladie qui finirait par un beau jour par passer, mais sans volonté de s'attaquer véritablement, politiquement, aux origines de ce chômage et trouver les moyens et la réflexion, le courage de la réflexion et la profondeur de la réflexion, même si beaucoup d'éléments existent déjà. Non, on est passé déjà à autre chose. Mais samedi, on était là avec Anaël Verzo, à Nantes, à l'endroit où cet homme a eu ce geste.
On donne ce qu'on peut. C'est pas... Ça peut être 20 centimes. On voulait faire une petite cagnotte pour la veuve de Jamal.
D'accord.
1 euro, 50 euros, 200 euros, 3000 euros, 50 centimes d'euros. Elle a perdu son homme. Et en plus, elle doit toujours 620 euros au Pôle emploi. C'est pour son épouse.
D'accord. Ce que je trouve scandaleux, c'est qu'on... Tout le monde s'ébahit devant ce qui se passe en Tunisie. Et on fait la même chose en France, personne ne branche. C'est triste quand même.
Merci beaucoup.
J'ai pas une tige, je suis désolé.
Vous êtes en fin de droit ?
Ouais, pas de soucis. Pardon ?
Vous êtes en fin de droit aussi.
Bah, je suis venu pour le côté humain, parce que bon, un drame comme ça, c'est pas le premier de l'année, ça va continuer. Mieux de nous faire chier avec l'aéroport et toutes leurs conneries, il ferait mieux de nous trouver du boulot, quoi.
On cherche une dame qui nous a dit qu'on pouvait récolter de l'argent. Elle est où, la dame ? La veuve est là ? Okay. Non, c'est pour nous tous, c'est pour vous. C'est pour Jamal. Non, c'est pour vous. C'est une collecte, c'est tout le monde qui a donné, c'est pour vous.
Mais de toute façon, ça servira pour sa famille.
Mais c'est,
tu gères. C'est toi qui gères.
C'est vous qui gérez.
Ça me gêne quelque part.
Non, pourquoi ça vous gêne ? C'est normal.
On n'est pas là pour.
Mais non, mais nous non plus. Mais ça fait aussi partie des trucs difficiles.
C'est de l'entraide.
Moi, je suis un kidam, une kidam. Quelqu'un qui est bouleversé par ce qui vous arrive, par ce qui s'est passé, par la mort de Jamal. C'est terrifiant.
Oui.
Mais terrifiant.
Il faut qu'elle serve quelque part.
Il faut qu'elle serve, mais il faut vous aider aussi.
Oui, merci.
Tenez.
Ouais.
On est tous.
Mais déjà, tout ce soutien-là, c'est déjà très important. Et puis j'aimerais que de là-haut, il puisse voir tous ces témoignages de sympathie, d'amour. Parce que partout où il est passé, il a laissé des traces.
On le sait,
c'était un homme très bon.
Oui.
Très généreux, quelqu'un de vraiment profondément gentil, honnête et droit. Ce qui s'est passé, on ne sait pas vraiment. En tout cas, il avait acquis ses droits. Il avait 712 heures. Maintenant, son trop perçu, il le remboursait. Il y a des choses qui vont être éclaircies. Après, je ne vais pas faire, voilà, pour l'instant, de procès. Moi, je voulais rendre hommage à cette personne que j'aime profondément, qui a une famille en Algérie qui souffre. Une famille à Paris, ses frères, Kader, Zindine, Karima, sa maman Keira, toute cette famille algérienne et française qui unissent leurs souffrances ensemble pour essayer de faire avancer les choses par rapport à peut-être un dysfonctionnement, une administration qui a perdu toute humanité. Les gens sont derrière leur ordinateur et derrière, il faut voir qu'il y a, d'accord, il y a de l'administratif, il y a du travail, mais il y a la sensibilité des gens. Des gens qui viennent à Pôle emploi, ils ont déjà soit une précarité, soit une sensibilité à fleur de peau. Si on leur dit « vous n'avez pas le droit », il a reçu des courriers, c'était ça qui a fait déborder le vase. Il était peut-être fragilisé en ce moment, mais il n'était pas dans cet état-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Simplement, il faut lui rendre hommage parce que de là-haut, il a des choses à faire maintenant. Et moi aussi, je vais en faire pour que justement ça ne se reproduise plus. Et que des gens dans cette situation n'agissent plus comme ça. Il y a 2 ans, on a eu la même situation. On lui a dit « t'as pas le droit à tes droits ». Simplement, il y avait juste une petite case qui était cochée. Le monsieur, par contre, bien de Pôle emploi, j'aimerais retrouver. Il y a des gens bien partout. A repris le temps de tout calculer. 2 jours après, il avait ses droits acquis. Voilà, c'est tout. Et maintenant, je vais me battre dans cette cause-là pour essayer d'aider ces gens-là. Parce que moi, je connais pas ça. J'ai la chance de travailler. Maintenant, cette crise, elle a aussi bon dos. Il y a derrière tout ça, il y a d'autres choses à faire. On a amené des photos. On va partir avec ces photos-là. Voilà, merci à tous. Il était très drôle et on va le voir sur les photos aussi.
Bienvenue à tous et avant de développer ces titres, un drame effroyable, ce sont les mots du ministre du Travail Michel Sapin.
C'est devant ses portes qu'un chômeur s'est immolé aux environs de midi mercredi.
L'agence Pôle emploi de Nantes.
Son épouse n'a rien vu venir. Jamel,
en début de semaine, l'homme de 43 ans avait prévenu plusieurs médias locaux de son intention de passer à l'acte.
On voit avec ce chômeur donc il s'est immolé devant un site de Pôle emploi.
Laurence Parizeau.
Je ne sais quoi dire tellement c'est absolument horrible et ce geste de désespoir je crois nous bouleverse tous.
BFM Business, 13 février 2013.
Il faut avoir à l'esprit qu'en France, on a des mécanismes sociaux très développés.
Mécanismes sociaux très développés que Mme Parizeau et son MEDEF s'emploient avec acharnement et méthode à combattre et à détruire quelques échos qui ont suivi le geste de Jamel Chahab. Mais sans suite. Une émotion sans suite. Sauf ce samedi, où il y avait cette cérémonie spontanée en hommage à cet homme qui s'est immolé donc mercredi par le feu devant le site Pôle emploi. Bien sûr, on a tout de suite visé Pôle emploi, le fonctionnement de Pôle emploi, les employés de Pôle emploi, mais qui évidemment ne peuvent pas être mis en cause par rapport au geste qui a été commis. Ce qui peut être mis en cause, c'est vraiment, véritablement, le chômage. On aurait pu penser que c'était là, vraiment, et je pense que cet homme y a pensé, que c'était peut-être le moyen de déclencher quelque chose par rapport à ce qui détruit de l'intérieur, en profondeur, notre société, nos sociétés. Faire très très attention à un homme humilié, lorsqu'un homme est humilié. L'homme qui est sur sa grue encore à l'heure qu'il est un homme humilié, moins gravement, moins profondément peut-être que celui-ci, mais l'humiliation, c'est ce qui caractérise aujourd'hui ces temps et les hommes aujourd'hui. Je parle des hommes au sens de la virilité, et humilié. Faire très attention à ce que ça fait sur le long terme, ressentiment, humiliation. On est toujours avec ceux qui ont organisé cette petite cérémonie spontanée. Et là, on rencontre une amie de Jamel Chahab.
Aujourd'hui, ce qui interroge à travers l'acte de Jamel, c'est voilà, quelle est cette société où la vie n'est plus sacrée, où sa propre vie devient une façon de dire des choses. Ouais, il n'a pas choisi la manière la plus simple.
Un sacrifice aussi.
Oui, puis une violence énorme dans le geste quand on connaît la personne. C'est incroyable, quoi. Donc c'est se dire qu'on n'est pas sûr d'avoir tout le message.
Il travaillait, hein, Jamel. Il travaillait.
Quand il travaillait et il avait toujours des missions, des missions d'intérim. Il a fait les 3-8, il bossait la nuit. C'était un bosseur. C'est un mec qui voulait travailler, quoi. Simplement, il est mort parce qu'il voulait travailler. C'est quand même incroyable, ça. Il a fait tout. Il a fait de la soudure, de la métallerie, du transport. De jour, de nuit, matin, du soir. Et toujours pour arriver avec des promesses de CDI qui n'aboutissent pas. Contrairement à ce qu'on dit, faire ça, c'est pas forcément avoir du courage pour le faire. On s'est croisés pas mal de fois, mais et toujours quelqu'un d'une douceur extrême dans sa relation avec les personnes. Justement, quelqu'un qui est là pour remonter le moral, dire allez, on y va, d'une intelligence profonde. Puis quelqu'un, c'est un artiste aussi, quoi. C'était quelqu'un qui avait. Voilà,
un artiste ?
Ouais, c'était un artiste.
Qu'est-ce qu'il faisait ?
Il fabriquait des marionnettes. On avait discuté sur justement par où commençait l'exclusion. C'est pas forcément par la nourriture, C'est la rupture du lien social, le pur accès aux choses qui permettent de penser, de rêver. Et notamment l'exclusion, c'est ça aussi, ça commence aussi avec ça. Les gamins qui, bah oui, on pointe un peu les gens en disant, voilà, ils ont la télé chez eux, ils dépensent de l'argent pour ça. Mais c'est la seule ouverture finalement quelque part qu'on peut, la moins chère qu'il peut avoir. C'est-à-dire que, voilà. Et lui, il était profondément convaincu que non, il fallait permettre aux gens de rêver de nouveau et qu'on était conscient qu'un des premiers exclusions, c'était la culture, quand les gens vont plus, n'ont plus les moyens de sortir avec leurs enfants, leur montrer autre chose. Il n'y a plus de lien social, c'est pas forcément le ventre plein, c'est aussi la tête, faut que la tête se remplisse aussi. Moi, je dis que c'est un acte de rébellion extrême. Voilà. Après, vous auriez dû le rencontrer, vous auriez passé des heures à l'écouter. Moi, j'ai toujours pas compris, hein, j'ai toujours pas réalisé la portée de son acte. Non, c'est un gâchis énorme.
Vous avez une rose blanche?
Oui. Marche blanche, rose blanche, j'aurais voulu lui l'offrir. Ça lui aurait fait plaisir en plus, je pense. On va suivre Nicole et puis voilà. On va voir comment on fait la suite maintenant, parce qu'il va falloir continuer et puis, pas oublier, jamais oublier ce qu'il a dit, jamais. Jamais, jamais. Les beaux yeux bleus magnifiques. Oh, il était beau. Très beau.
Je l'avais donné la rose.
Ah,
Nicole,
il était beau, moi. Jamel. Ah oui,
bel homme. C'est un bel homme.
Bonjour.
Je suis chez Pôle emploi aussi. Et j'ai eu ces idées-là. Et s'il n'y avait pas eu ma famille, je ne serais pas là en train de nous parler. En fait. Ouais.
Vous avez pensé aussi vous immoler par le feu?
Non. J'ai pensé au suicide. Parce que quand, on se sent tellement seul, en fait. Mais pourtant, il y a 3 millions de chômeurs, quoi.
Plus.
Plus.
Beaucoup plus.
5 millions, au total.
5 millions, ouais. Et en fait, du coup, ils sont tous éparpillés et solitaires, quoi. Et bon, il y a des associations de chômeurs, mais...
Agir ensemble contre le chômage. J'étais le président national. Il y a 3 associations contre le chômage. Il y en a une à politique, il y en a une qui est politique de gauche, et il y en a une qui est intégrée au Parti communiste.
D'accord.
Alors tu fais ton choix. Quand tu étais au chômage, à laquelle tu as choisi?
Ok, justement.
Pourquoi?
Hein? J'ai pas... Ouais, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai pas réfléchi.
C'est terrible, les Français sont individualistes. Ils savent pas fédérer leurs forces et faire travailler en synergie leurs énergies. C'est trop triste. Alors ça donne quoi? Ça donne des suicides, comme ça. Voilà. Où le gars se croit tout seul.
Ouais, c'est ça. C'est malheureux de se rassembler pour ça, quoi. Enfin...
Non, c'est pas malheureux. Alors, ça c'était avant que le...
Ouais, mais... Alors que c'est avant qu'il faut faire les choses, quoi. Enfin, non. Faut pas arriver après à...
Tout est parfait sur cette terre. Quand il y a quelque chose qui arrive, c'est que ça doit arriver. C'est le karma, c'est le chemin à l'étoile.
Je suis pas d'accord.
Ah bah, si t'es un pessimiste, c'est ton regard.
Mais non, mais le destin, moi j'y crois pas.
Hein. Ah, mais moi,
c'est les hommes qui se créent leur destin.
Pourquoi tu mets un mot là-dessus? C'est la marche de la vie, tout simplement. Pourquoi tu mets le mot destin?
C'était pas son destin de se simuler
mais
par le feu,
rien,
je suis désolé.
C'était sa liberté, en tout cas.
J'ai pas envie de me prendre la tête avec
donne-lui
vous.
Donne-lui la liberté de partir quand tu le veux.
Ouais,
qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors, vous avez une guitare à la main et une guitare dans le dos, vous faites de la musique.
Voilà, c'est ça. Bah, du coup, je suis chez Pôle emploi et je suis obligé de... Enfin, en fait, je suis en fin de droit. C'est pour ça que je fais de la musique dans la rue. Quoi.
Dans la rue?
Voilà.
Vous avez quel âge?
24. Je suis sur mes 25 ans.
Ça fait combien de temps que vous êtes au chômage?
Ça va faire un an et demi. Au début, je touchais les ACIDIC parce que j'avais travaillé dans un centre de distribution, de grande distribution. Et du coup, je suis arrivé en fin de droit. Et j'ai déposé, 50, 60 CV. Et j'ai des réponses que maintenant, j'en ai eu 2 ou 3. Mais heureusement, j'ai passé une formation de matelot, en fait. Ça va me permettre de... Là, j'ai un entretien dans 2 semaines chez la Brittany Ferries.
Là, on quitte la place Royale, hein. On va où?
Mec, on va où?
Je ne sais pas.
Rue d'Orléans. En plein centre.
On va voir la Galerie Lafayette. Là.
Voilà, là, c'est la marche, un cortège funèbre.
Le quartier de Nantes qui s'appelle Bouffay.
Et là, il y a justement quelqu'un sur notre gauche qui est par terre avec une pancarte « J'ai faim, aidez-moi, merci ».
Tout le monde l'ignore.
Donc là, on est dans le cortège funèbre, la marche silencieuse qui traverse le centre-ville. Il y a ce très long cortège qui passe au milieu d'une foule de passants qui font les soldes, hein, c'est les soldes.
Imagine qu'on te mette sur une ligne de départ dont la signification est fait d'avis. Seulement, on ne te dit pas que ton voisin fera tout ce qu'il peut pour te faire tomber. Tiens, prenons un exemple. Aujourd'hui, je t'ai tendu la main, je suis un type sympa. Mais demain, je ferai tout. Tout pour que tu dégages.
On est arrivé sur une petite place. Il y a une grande statue au milieu. Et là, c'est le recueillement de personnes de la famille de Jamal qui se prennent dans les bras, juste devant cette statue. Et tout le monde est rassemblé autour. 100 personnes, peut-être. C'est quoi?
Ben, je sais pas, justement. Enfin, peut-être pas mélanger. Je sais pas, c'est quoi ça?
Il y a d'autres manifs.
C'est les cubinis de service.
C'est des militants contre le mariage gay qui passent.
Sur Jamal?
Sur Jamal.
Ouais. Il faudra dire que. Il y a un manque d'humanité, quoi, dans la société, quoi. Hein? Parce que moi, j'étais proche de Jamal. Et je pense que. Il y aura beaucoup de gens et beaucoup de services qui devront se poser des questions. Que ce soit médical ou administratif. Mais médical aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup relevé le point médical. Parce qu'il faut rappeler que Jamal, il y a la semaine dernière, il est allé de lui-même 2 fois au CHU et il s'est fait jeter. Parce qu'il a demandé de l'aide. Il a demandé à se faire soigner et on ne l'a pas écouté.
Et là, ce qui se passe pendant que la famille se recueille, donc près de cette statue sur la gauche, il y a des manifestants. Et il y a un mélange du coup entre ces deux rassemblements parce que les manifestants passent devant le rassemblement.
Ça a chauffé entre la manif apparemment opposée au mariage gay et des militants ici. Donc les gendarmes, enfin la police, les CRS se sont interposés. Et là, bon, c'est un peu triste par rapport à... au recueillement qu'il y a derrière, mais il y a une partie des militants nantais qui réclament à la police de s'en aller.
Ça y est, ils sont partis là, les policiers sont partis.
De quoi?
Bah de ce qui vient de se passer.
Non.
Il y a besoin d'images, hein, s'ils déposent plainte contre les flics.
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Récapitule. Alors, il y avait la manif d'hommage, là, que tu suis depuis tout à l'heure. Et il y avait une manif à vélo de fachos homophobes contre le mariage pour tous, qui passait en klaxonnant avec des ballons, tout ça. Du coup, il y a des gens qui sont allés les voir et qui leur ont dit bah, « il y a un hommage ici, vous arrêtez de faire du bruit comme ça, vous arrêtez d'hurler ». Du coup, aussitôt, t'as des gens qui ont sorti des insultes homophobes. Là-dessus, les flics arrivent, les flics se mettent à gazer gratuitement tout le monde. Et il y a un copain qui a pris un grand coup de matraque, ça lui a ouvert la cloison nasale, il pisse le sang, il est à l'hôpital là. Et donc il y a eu aussi une dame qui a été poussée à terre, il y a une autre dame qui a pris un coup de tonfa sur la tête.
Des personnes de notre assemblée.
Évidemment, ah non, mais les fachos, ils n'ont pas été, ils n'ont strictement rien eu, c'est eux qui ont agressé, ils n'ont strictement rien eu, évidemment. Et dès que la manif des fachos était passée, les flics sont remontés dans leur camion et sont partis.
Voilà, c'est très tendu, enfin, du fait de Notre-Dame-des-Landes. Voilà,
la police nantaise, c'est un problème récurrent depuis des années. De toute façon.
Ça a tout électrisé et on a beaucoup plus de flics en ville depuis que c'est parti à Notre-Dame-des-Landes. Et voilà, mais tout le monde est crispé, les élus machin commencent à être débordés parce qu'ils savent qu'on est en train de remettre profondément en question leur stratégie de soi-disant développement, il y a une tension quand même.
Évidemment, c'est désolant. Et c'est encore plus désolant que c'était vraiment pas le moment et que... J'ai même pas de mots.
Vous avez reçu un message, deux messages, trois messages, quatre messages. C'était un reportage d'Anaël Verzo, un samedi à Nantes, autrement dit, autrement vu et autrement entendu. Merci à Jean-Baptiste et Sonia Méziane, Antoine Denécher et Pierre-Yves Bulteau. Merci également à Nicole et à toute la famille de Jamal. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter et également sur le site labas.org, où vous pouvez réécouter cette émission. À la technique aujourd'hui, Éric Morin et Michel Bézikian, c'est Chloé Sanchez et Lucia Kuhn qui ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch, et Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de la base UGSU au 01 56 40 37 37.
France Inter présente Sengé Sabour, Pierre de Patience, un film de Atik Raimi, prix Goncourt 2008, avec Golshifteh Farahani, au cinéma le 20 février. Quelque part en Afghanistan, une jeune femme veille son mari blessé. Elle profite de son coma pour lui confier ses peurs, ses désirs et ses secrets. Ses confessions intimes vont peu à peu lui permettre de s'affranchir et de se libérer. Retrouvez Atik Raimi et Jean-Claude Carrière dans L'Humeur Vagabonde, demain à 20h.
16h sur Inter, on se retrouve à demain 15h. Demain 15h pour la base, si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Ariane Grissel. Salut.
Soulagement pour les 300 employés du site Spanghero de Castelnaudary dans l'Aude. Le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll décide de rétablir en partie l'agrément sanitaire de l'entreprise. Agrément suspendu jeudi à cause du scandale de la viande de cheval. Les conclusions de l'enquête vétérinaire seront, elles, rendues vendredi. Deux convoyeurs de fonds ont été légèrement blessés par balle dans l'attaque de leur fourgon blindé à Bois-Guillaume près de Rouen en début d'après-midi. Les hommes partaient pour une tournée de ramassage de fonds quand le camion ben des malfaits a percuté leur véhicule. La justice belge rejette la demande de bracelet électronique de Marc Dutroux. Le pédophile reste donc en prison. Le tribunal d'application des peines estime que le risque de récidive est trop élevé. Marc Dutroux a été condamné en 2004 à la réclusion à perpétuité pour l'enlèvement et le viol de 6 jeunes filles et le meurtre de 4 d'entre elles, des faits qui se sont déroulés dans les années 90. L'ETA exprime ses regrets à l'égard de ses victimes qui n'ont aucune responsabilité dans son combat. Regrets et prononcés par la voix de l'ancien chef militaire de l'organisation séparatiste basque, jugé en ce moment à Paris avec 9 autres états présumés. Des propos qui interviennent alors que l'ETA est en train de négocier sa dissolution complète avec l'Espagne et la France. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, reçoit en ce moment des associations de défense des droits des pères. L'homme retranché depuis 4 jours au sommet d'une grue à Nantes attend de connaître l'issue de cette réunion pour savoir s'il redescend ou non. Il réclame de voir son fils. Son droit de visite lui a été retiré il y a 2 ans, après une condamnation pour soustraction d'enfants. Plusieurs mineurs ont été touchés par balles par des vigiles en Afrique du Sud. Les tirs ont éclaté pendant des affrontements entre syndicats rivaux dans le nord du pays. La situation est encore confuse, pas de bilan précis pour l'instant. Le secteur minier sud-africain a été touché l'an dernier par une grève sauvage, mouvement qui a fait près de 60 morts. Des scientifiques russes ont enfin retrouvé des fragments de la météorite qui s'est désintégrée au-dessus de l'Oural vendredi, faisant plus d'un millier de blessés légers. Une découverte qui va mettre fin aux rumeurs les plus farfelues. Caroline Larson.
Intervention divine, arme nouvelle testée par les Américains. Les rumeurs sont allées bon train en Russie après l'explosion dans le ciel de l'Oural qui a fait plus d'un millier de blessés. Après plusieurs jours de recherche, des fragments de la météorite qui s'est désintégrée vendredi ont été retrouvés par des scientifiques. Malgré l'arrêt des recherches dimanche, des scientifiques de l'université de l'Oural ont affirmé avoir retrouvé une 50aine de fragments près du lac. Selon le chef de l'expédition, cette météorite relève de la classe des chondrites, un type de météorite pierreux composé pour ses fragments-ci de 10% de fer. La météorite devrait être baptisée météorite de Tcherbakoul, selon le communiqué envoyé par les universitaires. Puisqu'on a retrouvé des débris, cela signifie que le principal fragment est dans le lac, estime-t-il, sans préciser s'ils vont poursuivre les recherches. Moscou, Caroline Larsson, France Inter.
Et certains petits malins ont déjà revendu des bouts de cette météorite sur Internet dès vendredi pour plusieurs milliers d'euros.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Attends une seconde. Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une image.
Ça m'avait échappé.
Théâtre.
Laissez-moi terminer, Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter, la voix est libre.
16h04, l'après-midi se poursuit en musique avec vous, Frédéric Lodéon, Carrefour de l'Odéon.
Merci beaucoup, Ariane Grissel. On vous retrouve à 17h. Carrefour de l'Odéon. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et je tiens à féliciter les jeunes chanteurs qui nous ont accompagnés avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France ces temps-ci, et notamment à Aix-en-Provence. Les Parisiens étaient très bien aussi, mais à Aix, qu'est-ce que ça chantait ? Oh là là, dans le sud, on a le gosier bien délié. Voilà, puis Aix, c'est ce fameux magnifique théâtre de Provence qui reçoit des festivals de plus en plus importants. Maintenant, à Pâques aussi, et puis l'été est bien connu, le festival d'Aix est très ancien. Enfin, bravo à tous ceux qui chantent si bien, à leurs parents, à leurs professeurs, à ceux qui les accompagnent en général, et ça fait toujours chaud au cœur, véritablement. Et ceux qui ont eu peut-être un peu moins chaud au cœur, ce sont les Russes qui ont vu tomber cette pluie de météorites, là, dans l'Oural, bien sûr, ça fait bizarre. On attend beaucoup de choses, les Russes ont connu pas mal d'envahisseurs, de guerres, etc. Mais là ça me paraît imparable, ce qui s'est produit. Et je ne sais pas si Tchaïkovski, en son temps, a connu cela. Quand il a écrit, par exemple, sa première symphonie « Rêve d'hiver », ben, il pensait plutôt à regarder les étoiles, à les contempler bien fixes dans le ciel. Il prenait parfois le train, parfois la calèche pour se promener dans la Sainte-Russie qu'il aimait tant. Eh ben, je vous propose d'entendre le premier mouvement, justement, « Rêve d'un voyage d'hiver ».
Thank you.
Premier mouvement de la première symphonie dite Rêve d'hiver de Tchaïkovski par l'orchestre symphonique de Göteborg dirigé par